ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM, c'est la Voix du Mag. Aujourd'hui, une émission qui va parler de mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques sans avoir jamais rien appris. C'était un vrai génie, question travaux pratiques, mais pas que. Avec nous au téléphone, Guy David du Côte et Sylviane Guérin de la Cheminée, un lieu indépendant sur Albi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, que se passe-t-il à la Cheminée? Vous allez accueillir une exposition d'affiches retraçant 35 ans d'affiches anti-guerre du Côte.
Alors, l'exposition donc a commencé le 1er octobre, elle se termine le 29 octobre.
Ouais.
Avec des événements aussi autour de cette exposition. Donc, à la Cheminée. La Cheminée est d'abord une galerie d'art contemporain, mais c'est aussi un lieu de mémoire puisque c'est une ancienne chapellerie, une ancienne fabrique de chapeaux.
Ah, ok.
Et donc, il y a une cheminée dans la cour, cheminée qui servait à évacuer les vapeurs d'eau des machines à vapeur, d'où le nom du lieu. Alors, nous exposons actuellement, effectivement, 95 affiches du COT, Comité d'objectrices et objecteurs de conscience du Tarn. C'est donc un choix parce que nous aimons bien à la Cheminée croiser l'art et le patrimoine, puisque nous sommes dans un lieu patrimonial, pardon. Et il s'agit là, effectivement, de l'histoire du COT, donc du collectif, pas du comité, j'ai fait une erreur, du collectif d'objectrices et objecteurs de conscience qui a fait, à l'époque, énormément d'affiches.
Et oui, ça couvre l'époque de 1978 à 2013.
Voilà. Donc, c'est l'histoire récente, hein, puisque... voilà. Et donc, évidemment, il y a un aspect aussi artistique, puisque des dessinateurs qui, pour certains, sont devenus, je dirais pas célèbres, mais en tout cas connus, ont dessiné des affiches du COT. Et puis, nous exposons aussi les œuvres de Nadine Trescart, qui est une plasticienne de Castres, qui a fait toute une série d'œuvres qui s'appellent « Bas les casques ». Elle a donc détourné des casques militaires pour en faire des œuvres d'art pleines de poésie, d'amour et d'ironie aussi. Alors, nous sommes dans le quartier de la Madeleine, donc de l'autre côté du pont, puisqu'il y a deux rives à Albi, l'une étant le quartier très connu et avec la cathédrale, et l'autre étant le quartier plutôt ouvrier populaire. C'est 5 rue Sainte-Marie, très précisément.
Et c'est ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 19.
Exactement, jusqu'au 29 octobre.
Et cette cheminée, c'est un peu le symbole de la mémoire ouvrière.
Absolument. C'est la dernière cheminée du périmètre protégé d'Albi, raison pour laquelle elle a été protégée par l'architecte des bâtiments de France, qui a refusé qu'elle soit détruite comme elle aurait dû l'être en 2012, pour qu'un promoteur puisse y faire des appartements dans les bâtiments et surtout virer la cheminée pour en faire des places de parking. Voilà.
Sylviane, tu viens un peu de l'évoquer, c'est aussi le nom de l'expo qui se nomme 35 ans d'affiches anti-guerre, la mémoire des murs. Je voulais savoir ce que ça pouvait représenter pour vous, la mémoire.
Ben, la mémoire, moi je crois que je vais répondre peut-être par une citation d'un monument aux morts de Saint-Martin d'Estrault, un monument pacifiste, hein, ça se trouve dans la Loire. La conclusion en est, la guerre aura-t-elle enfin assez provoqué de souffrances et de misères, assez tué d'hommes, pour qu'à leur tour, les hommes aient l'intelligence et la volonté de tuer la guerre. Et disons que c'est dans cet état d'esprit que le Code s'est constitué et a essayé d'œuvrer. Même si la réalité est dure aujourd'hui, ben, pour l'avenir, c'est ce qu'on souhaite encore.
Donc, Code, c'est lié au mouvement des objecteurs et objectrices de conscience, c'est-à-dire un refus d'accomplir, alors je parle vraiment là de, pas forcément lié au service militaire, le refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec des convictions intimes de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique ou sentimentale. Ce mouvement s'est constitué durant la période du service militaire en France.
Oui, mais pas tout le temps. On peut faire une petite remontée historique rapide. Donc, il y a la guerre d'Algérie. Avant la guerre d'Algérie, celui qui refusait d'aller à l'armée, on le mettait en tôle.
Prison.
Ni moins. Après la guerre d'Algérie, il y a un anarchiste non violent, Louis Lecoin, qui fait une grève de la faim et il dit « Je ne supporte pas que des jeunes qui ne veulent pas aller à l'armée soient incarcérés. » Donc il va faire une grève très très longue et au bout d'un certain temps, le pouvoir accorde le statut de l'objecteur de conscience à celui qui le demande sur les thèmes que tu as dit. Et ce statut d'objecteur, par contre, et on demande à l'objecteur de faire le double de temps de celui du service armé. Et donc c'est pour ça aussi que certains qui ont décidé de ne pas faire le service armé disent pourquoi il y aurait 2 ans, pourquoi aussi nous on aurait un service à rendre, on est solidaires dans tout le temps dans notre vie. Et donc on a des copains au sein du COT qui ont décidé de s'insoumettre, c'est-à-dire de ne pas vouloir faire le service civil qui était imposé aux objecteurs de conscience. Mais c'était un engagement. Alors moi, je peux citer l'engagement. On a eu plusieurs copains qui sont insoumis aux côtes. Mais je parle surtout de Pierre Serre qui a eu 9 procès pendant 10 ans, de 1986 à 1996. Il a eu tous ses procès et le dernier, il a 6 mois de prison ferme. Le verdict est 6 mois de prison ferme, mais il n'est pas incarcéré sur place. Il reçoit une convocation pour être incarcéré à la petite gendarmerie de Castelnau de Montmirail. Donc, il s'y rend, mais il s'y rend pas tout seul. On s'y rend à 200. Et la petite gendarmerie de Montcastelnau, il n'y a que 2 gendarmes. Ils gardent Pierre pendant 1 heure et ils lui disent « On ne peut pas accomplir la mission qu'on nous a confiée aujourd'hui. » Donc, nous, dans la foulée, Pierre monte dans une voiture, part en Espagne, en Catalogne plus précisément, et où il va rester en exil pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ben, il y a une amnistie qui va lui permettre d'être tranquille et de pouvoir reprendre une vie normale, quoi.
Oui, parce que ces années-là, c'était un positionnement contre la guerre d'Algérie, le refus de tuer.
Oui, ben, oui. Les premiers objecteurs, quand on parle d'objecteurs en France, c'était pendant la guerre d'Algérie. Bon, mais la position de ces réfractaires à la guerre d'Algérie a permis ensuite d'obtenir le statut d'objecteur de conscience, quoi. Et donc après, bon, mettons, moi j'ai demandé le statut, mais j'ai fait une année dans les eaux et forêts, une année à la Fédération des œuvres laïques, quoi. Voilà, bon, j'ai travaillé comme ça. Voilà. Mais après, je reviens sur les insoumis qui allaient plus loin et qui disaient, il n'y a pas de raison, moi je refuse d'aller à l'armée, je ne dois rien à la nation, j'ai pas de contrepartie à donner. C'était ça. Mais avec pas de possibilité d'aller dans la fonction publique, des procès, et encore des procès, enfin plein de... puis aussi, je pense que, oui, je voudrais dire quelque chose, c'est que ça a été concédé. C'est pas un vrai cadeau, ce statut de l'objecteur. Par exemple, c'est une loi française. Ben, cette loi, il était interdit d'en faire la promotion. Il y a même un homme, le pasteur Cruz, qui en a fait la promotion et qui a été incarcéré 5 jours. Et donc, c'était très ennuyeux parce que, mettons, bon, étant donné qu'on n'avait pas le droit d'en faire la promotion, ça ne pouvait pas passer à la radio, ça ne pouvait pas passer dans les journaux. Bon, nous, en tant qu'antimilitaristes, certes, on collait des affiches pour dire le service militaire n'est pas obligatoire, mais bon, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il faut bien voir ça aussi. Et donc, ça restait confiné. C'était difficile d'avoir ne serait-ce que l'information pour pouvoir faire objecteur de conscience.
Complètement, il y avait une pression aussi sur toute cette jeunesse.
Donc, ça a été le statut a été concédé du bout des lettres, quoi. Ouais. Mais beaucoup dans le pouvoir ne le supportaient pas.
C'est quand même très significatif le fait que un jeune à 20 ans doive faire 2 ans de service au lieu d'un an s'il veut être objecteur. Donc on sent bien là derrière qu'il y a une punition quelque part, quelque chose de l'ordre de la punition, bah, t'en feras le double quoi.
Ouais,
c'est profondément injuste évidemment.
Tout à fait, et puis sans débat en fait.
Nous on essayait de créer le débat, mais c'était marginal quoi, hein, c'était marginal.
Et c'est vraiment le premier positionnement, j'ai l'impression, de la part de la jeunesse sur des questions philosophiques et existentielles, faire ou pas. C'est-à-dire à partir du moment où on intègre l'idée qu'il y a la possibilité de ne pas faire le service militaire, eh bien, il faut se positionner, je ne sais pas, prendre ses responsabilités un petit peu et assumer ses convictions.
Oui, c'était une bascule. Où on allait à l'armée, où on n'y allait pas. Ouais. Pour moi, par exemple, bon, ben, c'était... Oui, ça a demandé la réflexion. Mon père était gendarme, notamment. Bon, il a fallu que je lui annonce que j'allais faire objecteur. Bon, mais ça, c'est ma petite histoire. Mais bon, ceci dit, il a très bien accepté parce que lui, de fait, il avait été réfractaire pendant la guerre, quoi. Mais, voilà, mais ce que je voudrais insister, c'est que l'info n'était pas faite, quoi, aussi, quoi. Non, je veux dire, bon, et donc, c'est vrai que c'est une bascule, c'est un choix qu'on avait à faire qui n'était pas toujours évident, mais il y a aussi que beaucoup de jeunes qui peut-être auraient eu envie de faire objecteur n'étaient même pas informés. Où c'est qu'on allait? Bon, quand on allait dans les mairies, mais dans les mairies, on vous donnait l'information pour faire le service militaire, pas qu'il existait le statut d'objecteur.
Oui, complètement.
Ça n'y était pas. L'information n'y était pas. On informait directement sur le service militaire. Alors certes, nous, on a une des actions qu'on a fait, on a envoyé à toutes les mairies du département la loi, la demandant de l'afficher. Je me souviens plus lesquelles, mais je me souviens, il y a 5 communes dans le temps qui avaient accepté de l'afficher.
D'après toi, c'est quoi les nouvelles formes, les formes actuelles d'insoumission, puisque objecteur de conscience lié au service militaire n'existe plus?
Disons que moi, là, je parle, si tu veux, d'une objection de conscience au service armé.
Oui.
Donc, celle-là, si tu veux, elle n'existe plus, mais je veux dire, on peut toujours avoir une objection, une désobéissance, je dirais plutôt, une désobéissance dans les actions que l'on fait, ou que l'on a faites, quoi. Hein. Mettons, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, bon, moi je peux citer une action qu'a fait le code contre la vente d'armes. On était allé au salon du Bourget, qui est un salon mixte armement et civil, et des copains se sont accrochés à un hélicoptère avec des chaînes. Bon, c'est resté, l'action a duré un moment, ils ont été incarcérés, ils ont passé une nuit au poste. Bon, c'est de la désobéissance, on n'a pas le droit de le faire, mais on le fait quand même parce qu'on estime que c'est juste et que ça va dans le sens de ce que l'on pense fortement.
Je pense qu'actuellement, la grande question, c'est quand même le climat,
ouais.
Très clairement. Et il y a actuellement des actions de désobéissance menées par des jeunes autour du climat. Action rébellion, ce genre de...
Complètement avec les mêmes méthodes d'enchaînement.
Absolument.
Mais je pense, moi je fais un truc sur le... Parce que un des deux gros thèmes, c'est parce que bon, on a lutté contre la conscription, c'est évident. Mais la conscription, elle se termine en 2003, dès 1996. Chirac arrête la conscription. Mais nous, on a travaillé sur plusieurs thèmes dès le début du code, autre que la conscription. Et je vois là, mettons, je vais parler d'un sur la vente d'armes, mettons. On sait que c'est un sujet, les gens, ils ont du mal à se mobiliser parce qu'il y a une impossibilité, il n'y a pas d'information dessus. On a fait une conférence la semaine dernière et ce que nous disait, c'est une opacité totale. On avait fait des oppositions au salon Rossatori, qui est un des plus gros salons de l'armement en France. Bon, eh bien, cette année, carrément, toute manifestation a été interdite à Villepinte, là où se tient le salon. Et c'est un sujet, alors bon, il y a un film aussi, Mon pays vend des armes, qu'on avait passé la semaine dernière, et où un des décideurs des vendeurs d'armes dit, ben, c'est un sujet, le moins on en parle, le mieux c'est. Alors, comment mobiliser sur quelque chose qui est secret? Et alors qu'on voit, on a vu, mettons, dans ce film aussi, que quand même, il y a eu des bagarres en Hollande, en Angleterre, qui font que, certes, ils vendent des armes, mais quand même, il y a une discussion, on peut en parler, et ce n'est pas inutile, parce que, par exemple, la France, elle, elle vend des arbres à l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite ensuite intervient sur le Yémen. Au Yémen, on en est à plus de 300 000 morts. Mais il y a des armes françaises dont on n'en parle pas beaucoup. Or, la France a signé un traité comme quoi elle ne peut pas vendre des armes à des pays qui violent les droits humains. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Eh bien, elle vend quand même. Mais dans des pays comme l'Allemagne ou la Hollande, où il y a davantage de transparence, ben, au Yémen, ni l'Allemagne ni la Hollande ne continuent de vendre des armes. Nous, on est vraiment sur une opacité totale sur ce sujet, comme sur le sujet du nucléaire militaire.
Oui, clairement, les techniques de diffusion et d'information. Donc pendant un moment, c'était les affiches, c'était notamment les affiches que vous présentez.
Tu vois, on a fait cette installation en les mettant par thème. Par thème, alors les thèmes, on a, bien sûr, on vient d'en parler, contre la conscription, sur l'abolition des armes nucléaires, sur la vente d'armes, sur les guerres du Golfe notamment, mais aussi guerre en Yougoslavie. En 93, c'est des copines du Côte qui sont parties en Serbie, qui ont rencontré des femmes pacifistes, notamment dans un village qui avait caché les jeunes pour qu'ils ne puissent pas partir à la guerre. Enfin, une expérience intéressante. Et puis, il y avait aussi un des axes sur lequel on a travaillé, et qui est, donc chaque fois qu'il y a un axe, il y a des affiches, automatiquement. Sur les accords armée-éducation. Alors ça, il faut revenir en 82, quand le PS arrive au pouvoir, le ministre Charles Hernu dit « Il faut arriver à l'armée préparée par l'école, le lycée et l'université. Bon, » c'est une intrusion complètement inacceptable. Et donc là, on va monter un gros collectif et avec plein d'actions pour mettre en échec ce protocole. Je dirais que c'est peut-être... Il y a des redites, mais... C'est peut-être l'endroit où on a réussi quand même à avancer le plus, quoi, peut-être.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce protocole s'appelle Symbiose Armée-École.
Oui, c'est vrai qu'après l'armée, maintenant j'ai l'impression que c'est l'entreprise qui rentre de plus en plus dans les écoles.
Oui, alors par exemple en France, une chose absolument incroyable, c'est que pour pouvoir passer les examens du baccalauréat, les jeunes sont obligés de faire une journée, je ne sais pas comment ça s'appelle dans leur jargon, mais une journée avec l'armée. C'est une condition pour passer le bac.
Et le permis de conduire.
Et semble-t-il le permis de conduire. Et ça, moi, je ne comprends pas comment c'est possible, légalement parlant. Comment on peut soumettre le passage du bac à de telles conditions.
Macron a quand même déclaré que nous sommes en guerre avec son discours sur la pandémie.
Mais ça, c'est pas Macron. Hein. Ça fait un moment que ça dure, hein. Cette histoire d'obligation de faire une journée d'information avec l'armée. C'est pas Macron. Oui, alors, Macron, il utilise un langage guerrier qui a cours actuellement. C'est-à-dire, on est en guerre... Contre tout ce qui arrive comme problème, on est en guerre. C'est aussi un langage utilisé pour mobiliser, entre guillemets, mobiliser le peuple, enfin tout ça, quoi. C'est absolument inacceptable.
Et disons qu'on a quand même une inquiétude, hein, aujourd'hui, c'est de voir... Tous les pays qui augmentent leur armement, j'ai entendu 100 milliards pour l'Allemagne, la France. Et il faut bien savoir que la France avait commencé à réarmer avant la guerre en Ukraine. Donc c'est pas que lié à l'Ukraine. Et c'est vrai que toutes ces armes, un jour, elles vont bien servir. Et donc il y a une grosse inquiétude là-dessus.
Et la France, par rapport à la vente d'armes, la France est le troisième vendeur d'armes au monde.
Oui, c'est là où je voulais en venir sur l'idée de stratégie de la peur, de la guerre pour maintenir le peuple sous contrôle. Et on parlait d'armes, ça me fait aussi penser à la police, l'armement dans la police, puisque...
Ah oui, la police française est de loin la plus armée de toutes les polices européennes, hein, très clairement, avec des armes qui sont interdites. Ouais. le fameux NBD, qui sont interdites dans tous les pays d'Europe, sauf en France.
Oui, oui, il y a plusieurs études qui ont été menées par des personnes comme Mathieu Rigouste, David Dufresne ou Pierre Douillard-Lefebvre, qui parlent de processus de guerre sécuritaire en cours. Et donc oui, la sémantique est aussi importante, toujours sur l'idée de maintenir le peuple sous pression. On parle de progrès quand on parle d'armement type drone, alors que c'était un usage ludique à la base, qu'on a transformé en usage de surveillance, puis de mort. C'est vrai que cette approche moderne de la technologie via l'attaque de drones rend spectaculaire, dans le sens que ça appartient au spectacle, la réalité, ça nous déresponsabilise, en tout cas la personne qui va commettre l'attaque, en tout cas il est à l'abri puisqu'il est loin du conflit. Et on parlait justement du fait de se responsabiliser en devenant objecteur de conscience.
Oui, je crois qu'on pourrait reprendre le terme science en conscience, c'est une de l'âme, quoi. Hein. Bon, donc c'est vrai que toujours de l'argent, toujours plus d'argent dans l'armement. Et ça n'augure pas de jours meilleurs, quoi. Hein. C'est inquiétant. Hein. Les dépenses dans le monde cette année, pour la première fois, ont dépassé 2000 milliards de dollars.
Tant que ce sera une économie, de toute façon, ce sera difficile à contrer.
Oui, difficile à contrer, oui, bien sûr, c'est difficile à contrer. Mais il y a aussi, effectivement, un manque d'informations. C'est-à-dire, cette rhétorique dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi faire accepter aux gens que, quand il y a des dangers, on s'arme. C'est une logique... qui n'est pas remise en question.
Ce que je trouve respectable, c'est que à travers cette action d'être objecteur de conscience, c'était aussi revendiquer le fait d'être anti-militariste, anti-autoritaire, être pacifiste, donc avoir une haute estime pour la liberté. Et je voulais savoir
ce que c'est. Pour la vie.
Pour la vie. Donc la liberté, ça vous évoque la vie?
C'est-à-dire que pour moi, la question de l'obligation du service militaire, c'est l'obligation d'utiliser une arme, et une arme est faite pour tuer. C'est aussi simple que ça, et on a tendance à l'enrober dans des histoires de liberté, de ceci et de cela. Mais d'abord, aller à l'armée, c'est apprendre à tuer.
Et à tuer aussi des peuples en résistance, puisque je sais que vous êtes proche des comités kurdes, de soutien aux familles tchétchènes, vous participez au collectif pour la justice et pour la paix en Palestine.
Oui, mais là justement on a fait pas mal d'actions pour... nous avons accueilli, justement quand tu parles d'objecteurs, c'est pas des objecteurs, c'est deux objectrices israéliennes en 2011. On les a accueillies pendant 3 semaines, elles sont restées 10 jours dans le Tarn, et ensuite elles ont passé 10 jours, elles sont parties à Montpellier, Marseille, Lyon, Nancy et Paris. Ça a été des rencontres très riches. Bon, être objectrice en Israël, c'est pas de la tarte. Sahar Vardi avait fait, quand elle est arrivée, elle venait de purger 5 mois de prison. Donc voilà, bon, pour les Kurdes, on a travaillé avec les Kurdes aussi, donc il y a des affiches bien sûr sur les Kurdes, parce qu'on avait un copain qui était kurde, qui était arrivé depuis 1986, et ensuite est arrivé à Labja, un bombardement chimique qui l'avait beaucoup touché, et donc on a créé un collectif qui ensuite s'est étoffé, quoi. Voilà. Quant aux Tchétchènes, alors là c'est un peu particulier, on est en décembre 1999, on a une réunion de notre collectif, et on a entendu à la radio que Poutine venait de dire « il faut arriver », et il vient de dire « j'irai buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes ». Bon, ça nous choque, moi la Tchétchénie je ne savais même pas que c'était. Il se trouve qu'Albi avait des réparations de la grande place et autour une grande balustrade. Donc on a entouré avec des centaines de mètres de papier kraft la place et on l'a baptisée place Grozny. Et du coup, bon, il y a des gens qui sont arrêtés et à partir de là, on a créé un comité, un collectif qui va, où plein d'associations vont venir et qui va durer pendant 20 ans pour aider les demandeurs d'asile tchétchène, quoi. Voilà, donc ça, c'est les choses qui se faisaient, qui n'étaient pas spécifiquement aux côtes, mais faites avec d'autres, avec d'autres groupes, quoi.
Mais c'est vrai que c'est amusant, là, tu parles des actions menées sur Albi. Moi, j'y ai travaillé pendant 10 ans et j'ai découvert le Côte à travers les actions au carnaval du 14 juillet avec les chars. Et voilà, je connaissais quelqu'un qui m'expliquait.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on aimait bien parce que okay. On n'a pas milité triste hein, pendant 35 ans. Quoi, hein. Donc là, quand il y avait le carnaval, on n'était pas invité. Hein,
voilà, c'est ça qu'il faut dire. Ouais.
Nous, on s'invitait.
Voilà.
Hein, on s'invitait, on y arrivait quand même. On y allait à une soixantaine d'histoires. Parce qu'une fois, on a voulu y aller à une dizaine, ça a été un échec parce qu'on s'est fait virer très vite. À 60, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils voulaient nous virer, mais la foule n'était pas d'accord et se demandait pourquoi on voulait nous virer, quoi. Donc, c'est par ces actions. Alors, ces actions, quand je dis que ça ne militait pas triste aussi, c'est, on le voit à l'expo, il y a 27 fêtes antimilitaristes qui drainaient quand même entre 700 et 800 personnes en moyenne. Et qui était aussi le fait que, lors de ces fêtes, ben, on avait des stands expliquant ce qu'on faisait et on grossissait notre groupe comme ça. Justement, quand je disais au départ, on est parti que trois objecteurs hein, en 1978, mais en 1979, on fait la première fête antimilitariste, et de trois, on passe à 30, garçons et filles mélangés, et après, ça a été une histoire de 35 ans. Quoi.
Oui, et si j'ai bien compris, il y a eu beaucoup de groupes de musique, de théâtreux, de gens du spectacle vivant qui se sont engagés dans les fêtes antimilitaristes pour...
132 groupes.
Voilà. Oui. Et ces fêtes, elles avaient pour objectif, si j'ai bien compris aussi, Guy, tu me corrigeras si j'ai tort, mais aussi, alors de faire la fête, certes, de faire venir du monde, d'informer, mais aussi de récolter de l'argent pour aider les personnes, les objecteurs et les insoumis qui avaient affaire à des frais de procès énormes.
Oui, les insoumis, hein, il faut savoir qu'un procès, c'était 2000 euros. Il fallait sortir 2000 euros, donc effectivement, des fêtes, des galas de soutien, des bouquins de dessin antimilitaristes aussi, on en a sorti trois, qui permettaient de faire des rentrées, ce qui a permis quand même que les insoumis, bon, ils avaient assez d'embrouilles avec la justice, mais par contre, au niveau financier, c'était le groupe qui payait, on a toujours réussi à payer ce qu'il fallait, quoi.
C'est un acte de solidarité quand même très concret.
Et ce soir...
Oui, alors ce soir, il y a une discussion, donc on invite les gens à venir discuter d'une thématique difficile, oui, lourde. Ouais. C'est le viol comme arme de guerre. Donc, il y aura des textes mis à disposition que les gens liront. Et autour de ces textes-là, eh bien, on discutera. Oui, il faut savoir que le viol a été reconnu comme crime de guerre en 2008 seulement par l'ONU. Et il y a une organisation qui existe au niveau international qui s'appelle WOW, W-O-W-W, ou, je me suis trompée, c'est W-W-O-W, We Are Not Weapons War, qui est une organisation qui dénonce cette problématique, qui dénonce le viol comme arme de guerre et qui aussi mène des actions très concrètes pour, d'une part, dénoncer, mais aussi soutenir les femmes qui sont victimes. Voilà, et donc, oui, on estime que c'est une question qu'il faut discuter, même si c'est lourd.
J'aimerais ajouter quelque chose sur un autre thème, puisque bon, ce soir, il y a la soirée sur le viol comme arme de guerre. Donc, la semaine dernière, on avait fait un ciné-débat sur la vente d'armes avec l'invitation de Tony Fortin, qui était de l'Observatoire des armements. Et la semaine d'avant, on avait fait un film sur la bombe atomique, La bombe et nous. Et là, je veux dire, je reviendrai à la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, quand on demandait l'abolition de l'arme nucléaire, on nous ressortait, c'est l'arme du non-emploi. C'est l'arme du non-emploi et ça empêche les guerres. Je veux dire que ces affirmations, elles sont battues en brèche complètement par la guerre en Ukraine. Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire en face. Notre ministre dit que nous aussi, on a l'arme nucléaire. Donc là, moi, je veux dire, là-dessus, la seule possibilité, et même le responsable de l'ONU, hein, Antonio Guterres l'a dit, la seule possibilité d'être sûr de ne pas avoir une guerre nucléaire, c'est de se débarrasser de cette arme. Et oui. Ça, je crois que depuis le début, on disait ça, mais je veux dire que là, on voit, parce que et quand, si on nous dit, ouais, mais vous êtes naïf, moi, je trouve qu'il faut être très naïf pour dire que jamais on utilisera l'arme nucléaire, quoi. Et ce qu'il y a quand même, c'est que là, il y a des mouvements actuellement, parce qu'il faut comprendre, les pays qui ont l'arme nucléaire ne veulent pas la lâcher, mais il y a des mouvements de pays qui, eux, n'ont pas l'arme nucléaire et qui veulent absolument que le monde en soit débarrassé. Et donc, ils viennent d'être signés un traité d'interdiction des armes nucléaires. Bon, je sais pas, il y a une centaine de pays qui sont adhérents, et on sent que ça pousse dans ce sens-là. Et enfin, je veux dire, voilà, la seule manière qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire, c'est de pousser, d'aider à ce mouvement pour qu'on arrive à un monde débarrassé de cette arme horrible.
Ouais, clairement, c'est qu'on ne soit pas dans la propagande de la dissuasion, mais tout à
voir. On ne peut plus parler de dissuasion.
Ouais, complètement. Ouais.
C'est pas sérieux.
Oui, intervenir là-dessus, c'était le maître mot, hein, la dissuasion. Et on voit aujourd'hui l'absurdité que ça recouvre. Et l'autre chose aussi à ce propos, dans le film que nous avons passé à Gaillac sur l'armement nucléaire, il est fait état de plusieurs, on va appeler ça incidents, hein, c'est-à-dire d'informations, de mauvaises informations qui ont circulé auprès des personnes qui sont responsables, hein, de cette qui étaient responsables de l'armement, d'une attaque nucléaire ou pas, et on voit que c'est qu'un accident est possible tout le temps. Alors un accident technique, un accident sur le matériel, mais aussi un accident dans la transmission des informations, dans l'ordre donné, etc. Il y a plusieurs exemples très concrets dans ce film qui montrent que c'est incroyable de prendre un risque pareil, quoi.
Ouais, évidemment, et le plus important, souvent, on a l'impression que c'est l'industrie, en fait. qui génère la menace.
Nous avons dans l'exposition, nous avons quelques petites... nous avons des petits panneaux qui expliquent un peu le contexte, et à chaque fois, une citation d'un poète ou d'une poète. Et il y a une citation qui est « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels ». De qui est cette citation ?
De Cole.
Et tout finit souvent par des chansons. Donc c'est vrai que vous terminez, voilà, vous, l'Expo le 29 avec une chorale.
Et nous aurons donc le 29 un groupe vocal féminin qui s'appelle Polyson, P-O-L-Y, 2-S-O-2-N-E, je précise. Qui est un groupe de femmes qui chantent des chants de lutte et qui ont proposent des chansons a cappella en lien avec la thématique. Voilà, nous aurons ça, et bon, ça va être la soirée de finissage en fait, comme il se doit. En fait, de l'amitié, on dira, hein, et contre la guerre, résolument contre la guerre. Tu es d'accord,
Guy ? Oui, tout à fait.
Voilà.
Écoutez, merci. Vous voulez rajouter une dernière chose ?
Merci à vous.
Non, mais vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pu... reparler sincérité. J'ai été très touché sur ce positionnement qui révèle aussi une personne, puisque c'est jamais anodin de prendre une décision qui potentiellement peut bouleverser sa vie. Donc merci, et merci aussi de continuer à diffuser l'information sur les armes et contre la guerre.
Merci à vous. de nous avoir entendus.
Avec plaisir et bonne journée sur Albi. Ouais, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Et nous, on continue également en chanson avec un titre qui parlera à tous les auditeurs auditrices de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et Civis Pacem, bien sûr.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Et puisqu'on était dans le Tarn, on va y rester, puisque à l'occasion de ZAD d'hier et d'aujourd'hui, plusieurs événements vont être organisés en mémoire de ces luttes, symboles de la résistance contre les grands projets nuisibles et imposés, et victorieuses grâce notamment à la diversité des modes d'action en grande et belle autogestion. Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Donc le premier rendez-vous a lieu ce soir, jeudi 20 octobre à 18h, au banc sonore, qui est au 22 promenade des Lys à Rabastens. Il y a un départ en covoiturage de Toulouse qui est prévu à 17h15. Le rendez-vous est à Balma-Gramont, au parking du terminus du métro. Voilà, plus d'infos sont à retrouver sur Démosphère Toulouse. La Voix du Mag s'éteint et si tout va bien, on se retrouve demain.
Matin, un morceau dédié à tous les insoumis, les objecteurs de conscience, les P4, et tous les gens qui ont refusé de faire leur service militaire, ce que nous on appelle la servitude nationale.
Ce morceau est dédié aux gens dont on a faim.
Le chien a pu dévorer, ce facteur se battra du rendu. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Un enfant vibreux, n'est pas sur la chambre des tâches. je suppose, ils ont baisé ma femme. Alors j'en cule les autres. Objection, votre honneur. Nous n'avons pas notre temps à faire. Objection, votre honneur. Nous n'avons pas notre temps à faire. Objection, votre honneur. Nous n'avons pas notre temps à faire. Objection, votre honneur. Nous avons toujours mieux à faire.